Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire revient ce soir sur une période douloureuse et tragique de notre histoire. Bonsoir à toutes et à tous. Notre invitée est née à Mercurey et jusqu'à 18 ans, elle a vécu dans une école dont son père était directeur et sa mère enseignante. Elle a 13 ans lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Elle a raconté son adolescence pendant la guerre et l'occupation sur le tard dans une autobiographie dont il va être question ce soir et qui a pour titre « Le miel de l'aube » sous-titré « Une enfance en Bourgogne sous l'occupation ». Ouvrage paru aux éditions de l'Armançon en 1999. Mais qui est donc cette adolescente qui raconte ses souvenirs dans ce livre? Eh bien, c'est Lucette Devine. Bonsoir Lucette.
Bonsoir Yannick.
Lucette, nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois à bord de Wagon Livre. Vous tenez en Bourgogne une place particulière dans le monde des lettres puisque vous êtes bien sûr une bourguignonne, vous êtes connue en Bourgogne, mais vous avez aussi toute votre place à côté des grands noms de la littérature française. Vous êtes sur le point de rentrer dans le panthéon des lettres françaises.
Vous êtes en train de m'apprendre une belle nouvelle.
Mais je le pense.
J'en suis pas sûre du tout, mais enfin, ça fait toujours plaisir d'entendre.
Mais votre production littéraire est très importante. Des romans volumineux, il faut le dire, hein, des suites romanesques, de très nombreuses nouvelles. Hein. On a eu l'occasion de vous recevoir pour parler de votre dernier recueil de nouvelles aux éditions de Bourgogne, hein, recueil qui a pour titre et qui est toujours disponible « Nouvelles à chuchoter au crépuscule ». Les contes, on vous a reçu aussi pour les contes de Noël, hein, rassemblés dans un recueil aux éditions de l'Armançon qui a un titre merveilleux « Le Père Noël est un chien ». Ça, c'est un scoop, hein, tout de même.
Oui, j'avais trouvé.
Et puis, à côté, il y a aussi votre théâtre, il y a vos textes publiés en édition bilingue, il y a la carrière d'universitaire, spécialiste du XVIIIe siècle et surtout spécialiste reconnu de Marivaux.
Oui, oui, Marivaux, j'ai passé ma vie avec lui.
Alors, on va, ce soir, si vous le voulez bien, Lucette, passer un peu de notre temps autour de votre adolescence, parce que... Vous êtes prête, Lucette, pour ce retour vers le passé?
Tout à fait.
Alors, on va revenir sur un livre sorti donc il y a quelques années. C'était en 1999 aux éditions de l'Armançon. C'est « Le miel de l'aube ». C'est votre autobiographie, sous-titrée « Une enfance en Bourgogne sous l'occupation ». Oui. Alors, Lucette, quand on a lu cette autobiographie, toute votre adolescence s'est déroulée sous l'occupation. Et à vous lire, on a le sentiment que vous êtes sorti de l'enfance et qu'à peine rentré dans l'adolescence, malheureusement, vous avez dû vous affronter au monde des adultes qui vous amenaient malheureusement sur le chemin de la guerre.
Exactement. Et je crois que vous avez très bien défini cette période de ma vie. Celle que les Anglais appellent « in their teens », c'est-à-dire de 13 jusqu'à 19, ce qui enclôt la plupart des adolescents. Oui, mon adolescence m'a été volée. C'est un ami allemand, un ami que j'aime beaucoup, qui m'a dit ça il y a quelques années, après avoir lu justement « Le miel de l'aube ». Il m'a dit « Mais je comprends maintenant que nous t'avons volé ton adolescence. » Et « nous », c'était la guerre, c'était « nous », les Allemands. « Nous t'avons volé ton adolescence. » En effet, j'avais 13 ans quand la guerre a été déclarée et 18 ans la libération. Ça fait donc 5 ans. 5 ans entièrement passés dans la guerre, et 4 ans passés en occupation. En plus de ça, dans une ville non seulement occupée, mais une ville frontière à la ligne de démarcation, puisqu'il s'agissait de Chalon-sur-Saône, et cerise sur le gâteau, si on peut dire, dans une école qui était occupée par les Allemands. Donc, cette école que j'avais connue comme, on pourrait l'appeler, un cocon protecteur, c'est-à-dire une bâtisse où il faisait bon vivre, où j'étais élevée entre mon père et ma mère, qui continuaient leur tâche d'enseignant à la maison. Et ça avait été une protection très remarquable, qui m'a beaucoup marquée d'ailleurs pour toute ma vie. Et puis voilà que brutalement, avec la déclaration de la guerre, cette école avait cessé d'être un cocon et était devenue une prison. Et une prison où, en plus de ça, se sont succédées les différentes phases historiques que la guerre et l'occupation ont connues. Je n'avais pas besoin de sortir de ces quatre murs où j'étais enfermée, et enfermée même, je veux dire, tout à fait concrètement. Les Allemands avaient dressé une palissade pour délimiter le petit bout de terrasse qu'ils nous reconnaissaient encore le droit d'occuper. Et puis, nous étions derrière cette palissade, mes parents, mon frère et moi. Et il y avait justement cette délimitation de la palissade, cette prison que représentait l'histoire. Seulement, l'histoire m'est apparue avec le développement de toutes ces successions d'occupations. Au début de la guerre, l'école de mon père a été réquisitionnée pour les appeler, les soldats qui allaient partir au front, qui sont restés quelques jours, le temps de se préparer. Ensuite, au moment de l'exode, une première tournée d'Allemands est arrivée, a occupé non seulement l'école d'ailleurs, mais également notre logement, puisque nous étions en exode. Ensuite, les prisonniers ont été amenés dans l'école de mon père, puis des Allemands qui y sont restés pendant 2 ans et demi. L'école ne fonctionnait plus, donc, à l'exception de la classe de mon père, qui devait rester là pour être responsable au cas où il y aurait eu n'importe quel coup de main sur l'école. C'était mon père qui était le premier fusillé. C'était surtout pour ça qu'on lui avait laissé l'autorisation de fonctionner dans sa classe. Et donc, après cette deuxième vague d'Allemands qui a duré 2 ans et demi, il y a eu un petit répit, et puis il y a eu les FFI. Nous avons vu, cette fois-ci, l'occupation nous apparaissait comme plus séduisante. Autrement dit, je n'avais même pas quitté les quatre murs de ma maison, les quatre murs de mon école, pour avoir des fenêtres sur l'évolution de l'histoire. Toute l'histoire s'est présentée à moi, s'est déroulée en quelque sorte devant mes yeux à travers les occupants de l'école de mon père.
Pardon, Lucette.
Non, allez-y.
Je voulais dire simplement, il faut bien souligner que une grande partie de votre enfance, adolescence, jusqu'à votre mariage, vous avez vécu dans une école.
Voilà.
Avec le vent de l'histoire qui venait comme ça frapper aux fenêtres et qui vous a privé des plaisirs qui étaient normalement ceux d'une adolescente.
Exactement.
Vous avez vécu dans, bien sûr, il y a le tragique, la douleur, les frustrations, une vie modeste,
peur,
les pénuries, la peur.
Oui. Les soucis aussi. Mes parents suivaient l'évolution politique de très très près. Mon père prenait les Anglais et les commentait en famille, si bien que j'étais très très au courant. Je me rappelle être allée à un cours de mathématiques où je n'arrêtais pas de pleurer. Et le professeur voulait savoir, elle était très gentille, mais elle avait une Francisque sur le revers de son tailleur. Et je ne pouvais pas lui dire que je pleurais parce que les Anglais venaient de perdre Benghazi. Pour moi, Benghazi, enfin la Tripolitaine, je suivais avec mon père. Et le jour où j'ai appris que Benghazi avait été repris par les Allemands, par Rommel, j'étais effondrée. Je pouvais toujours aller au cours de mathématiques. Je ne sais pas du tout ce qu'on en a dit ce jour-là. Je pleurais de manière incoercible.
Lucette, on va se quitter quelques minutes. On va marquer une première pause musicale et puis on reviendra sur cette enfance en Bourgogne sous l'occupation que vous racontez dans votre autobiographie qui a pour titre « Le miel de l'aube » aux éditions de l'Armançon. On se retrouve d'ici quelques minutes.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
Une enfance en Bourgogne sous l'occupation. Ce soir, en compagnie de Lucette Desvignes pour Le miel de l'aube, paru aux éditions de l'Armançon. Lucette Desvignes, on a bien compris que l'histoire était arrivée jusqu'à vous, dans des conditions effectivement difficiles, comme toutes les Françaises et tous les Français en ont connu à cette époque pendant l'occupation, avec le patriotisme, l'amour de la patrie chevillé au corps quand même, de voir cette France sous le joug allemand avec une vie et un quotidien qui avait énormément changé. On est, la République a disparu, c'est l'État français, les valeurs républicaines se sont envolées au profit de travail, famille, patrie, et auprès de vos parents qui avaient politiquement choisi le camp de la gauche républicaine depuis fort longtemps, Hitler, bien sûr, l'occupant, l'hitlérisme en France, le maréchal Pétain, la poignée de main de Montoire qui fait rentrer la France dans la collaboration, tout ce souffle de l'histoire qui balaye la République est une catastrophe pour votre famille.
Bien entendu.
Et même la petite fille que vous êtes.
Bien entendu, et même la petite fille que je suis, j'avais été très marquée, en somme, par les idées de mon père, qui étaient des idées internationalistes, des idées d'humanisme, que j'ai retrouvées d'ailleurs et pratiquées pendant toute ma vie. Mais à ce moment-là, ces idées étaient réduites à quelques petites lueurs d'espoir qu'on entendait le soir en écoutant les Anglais. Mais à part ça, dans l'ensemble, les journées étaient tristes. On guettait, comme je vous l'ai dit, on guettait les victoires des Anglais, on guettait les victoires des Russes à partir du moment où la guerre avait été transporté sur le front russe. Bref, de très bonne heure, une petite fille avait été obligée de se mettre avait été obligée peut-être d'acquérir un certain regard d'adulte vis-à-vis de la situation internationale, vis-à-vis des problèmes avec le Japon, avec l'Italie, avec les États-Unis, avec la Finlande ou la Pologne. Ce sont des notions à côté desquelles je serais passé sans difficulté en d'autres temps, mais qui m'ont plongé, là, à partir de 1939, qui m'ont plongé vraiment dans les réalités de la guerre et de l'histoire. Donc, j'en ai été très marquée, mais je voudrais aussi vous faire remarquer que dans ma classe, à l'école, ça n'était pas la disposition de tout le monde. Il y avait des élèves, j'avais des camarades de classe qui s'accommodait fort bien que Pétain soit à la tête du gouvernement, qui s'accommodait fort bien du marché noir parce que leurs parents en faisaient. Et moi, j'étais habillée là, comme, je ne veux pas dire comme une petite mendiante, mais enfin, quand vous avez 14 ou 15 ans et que si vous avez besoin d'une jupe, on vous la fait dans une vieille robe de votre mère, vous cessez quand même de trouver que la vie est bonne. Hein? Et à l'intérieur même de l'école, à l'intérieur de ma classe, il y avait celles avec lesquelles je pouvais m'entendre, celles qui, comme moi, prenaient les Anglais le soir, attendaient la défaite de Pétain, attendaient les victoires des Anglais. Et puis, il y avait toutes les autres. Et nous formions un petit groupe de résistance, si vous voulez. Nous n'avions pas la possibilité de beaucoup résister, mais en tout cas, je sais que mes autres camarades savaient que moi, j'étais pour les Anglais. C'est ce qu'on dit. Oh, toi, tu es pour les Anglais.
Et vous allez même jusqu'à vous battre avec une camarade de classe.
Exactement.
Qui, selon vous, enfin, elle est favorable
à Pétain,
et même au Doriotti, c'est-à-dire oui, Doriot qui avait appelé
ça,
les Français
oui,
à rejoindre
ça,
la LVF,
oui.
Donc la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, donc combattre oui. aux côtés des Allemands, contre les Soviétiques. Et alors, Lucette, vous vous bagarrez avec cette camarade dans la cour de l'école.
Dans la cour de l'école.
Eh bien, dites donc, Lucette.
J'avais une petite croix de Lorraine.
Eh oui.
Qui était au bout d'un fil tricolore que j'avais tricoté, il fallait voir comme. Et j'ai laissé ma croix de Lorraine dans les cheveux, dans les tresses
de la Doriotiste.
De la Doriotiste, voilà.
Vous écrivez « Ainsi, le monde extérieur introduisait sa violence dans mon quotidien préservé. La guerre, effectivement, a bouleversé votre adolescence. » Et donc, vous avez assisté à la déclaration de la guerre à la radio, en fait.
Oui. Mais
sur celle du voisin, parce que vos parents n'avaient pas la TSF à l'époque.
Mes parents n'avaient pas la TSF, et alors, on sentait que les choses allaient se dégrader et qu'il arriverait quelque chose. Et mon père est revenu à la maison en disant, mais on vient de me dire que la guerre est déclarée. Et on n'avait pas de TSF, donc un voisin qui avait entendu ça ou qui avait vu mon père nous a amené son petit poste et vraiment on a entendu la déclaration de la guerre sur ce petit poste et je raconte ça en disant que c'était plutôt drôle parce que quand on a entendu le terme de déclaration de la guerre est déclarée, ma mère s'est mise à pleurer, mon père était complètement abattu, consterné, et le poste faisait beaucoup de bruit, et le voisin disait « Oh, il fait de la friture !» Et ce terme de friture nous avait tellement amusés, mon frère et moi, qu'on s'était mis à rire. Bon, les gifles sont partis, parce que vraiment, c'était pas le moment de rire.
Thank you. À l'instant, un titre de 1941, c'était Nuages, interprété par Django Reinhardt. On retrouve notre invité ce soir devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Nous accueillons effectivement Lucette Desvignes pour son autobiographie, Le miel de l'aube, une enfance en Bourgogne pendant l'occupation. Alors Lucette, avant de nous séparer, nous parlions des moyens de communication et notamment de la radio. C'était un des vecteurs essentiels de communication à cette époque. Il faut dire que très rapidement, vous avez eu dans votre famille un poste de CSF que votre mère avait acquis.
Elle s'est mise en demeure de chercher un poste. Alors on a eu un poste d'occasion, enfin qui marchait assez bien. Et tous les soirs, on prenait le poste, on prenait les onglets, bien sûr.
Ah, vous n'écoutiez pas Radio Paris qui mentait ?
Voilà, on n'écoutait pas Ferdonnet, pas du tout. C'était vraiment quelqu'un qu'on haïssait, qu'on méprisait.
Votre père pouvait écouter Radio Lyon, puis alors surtout, et très rapidement, au début en tout cas, il s'est branché vers les radios suisses romandes. Normalement, il y avait Radio Sautens.
Alors, il y avait Sautens, oui. On écoutait régulièrement. Et on savait que c'était neutre, donc on avait la vérité sur les victoires ou les défaites des Allemands sur le front russe. Mais c'était surtout par les Anglais qu'on apprenait la vérité. Et c'était très courageux de la part de mon père d'écouter les Anglais. Nous avions les Allemands qui passaient à un mètre. Et vous savez, avec tout le bruit que faisaient les émissions anglaises, qui étaient brouillées, bien entendu, on était obligé de garder le poste un peu fort. Et c'était dangereux. Il y en a bien d'autres qui ont été pris à la place de mon père.
Lucette Desvignes, dans Le miel de l'aube, sous-titré « Une enfance en Bourgogne sous l'occupation » aux éditions de l'Armançon, la guerre arrive donc jusqu'à l'école où vous résidez, et alors là défile tout un grand nombre de souvenirs. Et vous vous souvenez notamment de la roulante, alors de la roulante d'une armée française en déroute dans un premier temps.
Dans un premier temps, c'était la roulante des appelés. Et alors là, ça fonctionnait avec des soldats que nous voyons passer et qui mettaient leur casque ou leur fusil n'importe comment. On voyait qu'ils étaient... Il n'y allait pas de gaieté de cœur. Alors ça a duré 2 ou 3 jours. Enfin, le temps que les appelés reçoivent leur équipement et partent au front.
Enfin, c'était un mauvais présage aussi.
Alors ça, c'était un mauvais présage. Et puis après... Il y a eu, donc en 40, il y a eu la roulante des Allemands qui était dans le bas de notre terrasse. Et quand et nous sommes revenus d'Exode, là, oui, nous avons vu le caractère grotesque de la discipline allemande, puisque les Allemands qui allaient chercher quelque chose au niveau de la roulante remontaient dans ce qui était notre cuisine à nous et à chaque fois devaient faire le salut de Heil Hitler en face d'un portrait qu'ils avaient pendu contre le mur. Donc chaque fois que le bras se levait, on pouvait être sûr que la boule de pain tombait. Il y avait des scènes absolument...
Que la soupe du car allait déborder.
La soupe du car.
Ça amusait votre petit frère.
Ah, mon petit frère trouvait ça très très drôle, oui.
Alors il y a la roulante. Bon, bien sûr, on passe un peu quand même rapidement, même si c'est pas si...
Oui, j'ai parlé de la roulante, moi, oui. Parce que je sais qu'il y a tout un passage qui vous a fait rire.
Oui,
aussi,
oui. Alors, il y a la drôle de guerre, l'expression de Roland Dorgelès, vous qui avez eu le prix Roland Dorgelès.
Oui, mais je ne savais pas à ce moment-là que j'aurais son prix un jour ou l'autre. Oui.
Bon, la ligne Maginot qui n'a servi à rien, puisque les Allemands l'ont contournée. Et puis alors, il y a des pages vraiment aussi touchantes, c'est d'apprendre que l'adolescente que vous étiez avait un filleul de guerre à qui vous écriviez des lettres de réconfort. Est-ce que vous pouvez nous... nous parler. Alors lui aussi, apparemment, il avait des problèmes sérieux avec l'orthographe. Hein.
Oui,
ça vous choquait déjà.
Oui, ça me choquait beaucoup, oui. On nous avait attribué, au lycée, on nous avait attribué à chacune un filleul de guerre auquel on a écrit les unes et les autres, mais peut-être pas très longtemps, vous savez, parce que dans la première partie de la guerre, pendant la drôle de guerre, disons, on pouvait encore acheter des petites boîtes de confiture, des petites boîtes de pâté ou des paires de chaussettes et leur envoyer ça, leur envoyer des petits colis. À partir du moment où ils étaient prisonniers, c'était plus possible. Il n'y avait plus rien dans les magasins, en ville. On ne pouvait pas aller dans les magasins, on ne pouvait pas trouver de la confiture. Tout était rationné. Et la première année, même le premier hiver, et on n'avait pas de pommes de terre. C'était un hiver entier sans pommes de terre en France. Alors, je crois que c'est parti, ça s'est effiloché comme ça. Je n'ai pas su si mon filleul de guerre avait été prisonnier. Et autour de moi aussi, quand je me suis renseignée, mes camarades de classe avaient laissé tomber aussi la correspondance avec leur filleul. Mais cette correspondance, enfin, j'ai reçu une lettre, mais c'était à mourir de rire. Et, enfin, mourir de rire, oui et non. Je pense au style, à la grammaire, à la langue française et à la manière dont elle était mutilée. Mais autrement, c'était pas drôle. C'était vraiment quelqu'un qui avait besoin qu'on lui écrive.
Alors s'installe une routine de pénurie. Et puis arrive aussi la guerre avec tout son cortège d'éléments perturbants suscitant la peur. C'est le bruit des sirènes et puis un peu plus tard, le bruit des bottes, Lucette.
Ah oui. Le bruit des sirènes, oui, ça a été quelque chose de très impressionnant. D'autant que à partir du moment où la guerre a été déclarée, on nous a renforcé nos sirènes. Il y avait des sirènes quand même avant la guerre pour annoncer que le chantier, le petit Creusot, reprenait à midi, à une heure, etc. Et la même chose pour la brasserie. Mais c'était, si vous voulez, des bruits de sirènes dont on avait pris l'habitude, qui étaient comme des sons de cloche. À partir du moment où on nous a installé en ville de grosses, d'énormes sirènes, le bruit était infernal. Et la première fois que nous avons entendu cette sirène se déclencher, c'était pour un exercice d'alerte. C'était abominable. La réaction que ça avait déclenché chez les enfants, chez les femmes. Et puis après, il a bien fallu qu'on s'y habitue.
Alors vous descendiez aux abris quand même.
On descendait aux abris. Les abris pour nous et pour le quartier étaient fixés sous l'école des filles. Il fallait donc traverser la cour et aller dans des caves qui sentaient le grésil, vous savez. C'était une odeur très très affreuse qui prenait aux narines, mais qui avait été mise là pour désinfecter, pour qu'il n'y ait pas des rats. Il y avait probablement des rats d'ailleurs. Et puis, Châlons n'ayant pas été bombardé.
Et alors, dans votre cartable apparaissent des choses nouvelles.
Bien entendu, la petite trousse de survie, la trousse de survie qu'on nous avait demandé de faire. Et moi, je l'avais fabriquée parce que ma mère n'avait pas trouvé d'occasion de m'en fabriquer une. Donc, je me suis fabriqué ça avec de la toile à matelas. Il faut voir ce que ça ressemblait. Enfin, c'est comme un petit portefeuille. Mais à l'intérieur, il y avait une petite bouteille d'alcool de menthe. Il y avait de la place pour deux ou trois biscuits, de la place pour de la teinture d'iode. Enfin, c'était C'était même grotesque, n'est-ce pas, qu'on nous demande d'avoir ça, parce que ça n'aurait même jamais pu servir en cas de nécessité. Après, moi, j'ai suivi des cours de secourisme, de moi-même, sans beaucoup d'expérience, j'avais trouvé que c'était grotesque qu'on nous fasse mettre un petit peu d'alcool de menthe dans une petite bouteille. Enfin, finalement, chaque fois qu'on faisait un exercice d'alerte, eh bien, vous pouvez être sûr que toutes les rations de biscuits et d'alcool de menthe de survie y passaient. Il n'y avait plus qu'à recommencer après.
J'étais très surpris d'apprendre que les institutrices ou les instituteurs donnaient des informations sur l'avancée, je parle bien avant l'arrivée des Allemands sur le sol de France, mais on vous communiquait les grandes étapes de la guerre. Par exemple, la maîtresse qui annonce la reddition du roi des Belges.
Ah, mais oui, mais ça n'est pas la maîtresse. C'est justement quelque chose qui était très solennel et qui m'a infiniment marquée. C'était la directrice. La directrice qui est passée dans toutes les classes pour annoncer à toutes les classes au début du mois de mai que le roi des Belges venait de se rendre avec son armée. Et tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que le roi des Belges se rendant, les Allemands entraient en Belgique, que la ligne Maginot ne servait plus à rien, puisqu'il n'y avait pas de ligne Maginot entre la Belgique et la France. Donc les Allemands pouvaient entrer comme ils voulaient. À ce moment-là, on en avait conclu que la préparation avait été faite peut-être en dépit du bon sens. Mais enfin, au départ, les Belges étaient nos alliés. Et la reddition du roi des Belges a été un vrai choc presque psychologique, si vous voulez, de la part des Français qui n'attendaient pas ce sale tour joué par le roi des Belges. Et ça, c'est justement, c'est la directrice, c'était tellement grave, ça nous laissait tellement comprendre que tout allait s'effondrer, les fronts militaires allaient s'effondrer, qu'il y aurait un chaos. On ne savait pas encore que ça s'appellerait l'Exode, que ça serait ce que ça a été, mais on devinait que ça serait quelque chose d'épouvantable. Donc, la directrice est venue nous annoncer ça et ça a été la consternation. Tout le monde a bien compris à ce moment-là, dans toutes les classes, que ça voulait dire le début de grands bouleversements et de grands malheurs.
Si vous venez de prendre le train en marche, si vous venez de rejoindre Wagon Livre, sachez que nous sommes ce soir en compagnie de Lucette Desvignes pour son autobiographie « Le miel de l'aube, une enfance en Bourgogne sous l'occupation ». Nous marquons une pause musicale et on se retrouve d'ici quelques minutes. Stop.
Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. C'est un air un peu bête, ça commence tranquillement, et puis tout à coup ça s'arrête. Stop. Tiens, tiens, ça reprend à tue-tête et de nouveau, brusquement, d'un air sourd, ça répète, stop. Hé hé, quand on l'a dans la tête, il devient obsédant, car c'est le refrain d'une chansonnette, stop. Voilà, un monsieur un jour rencontre dans le métro une jeune femme comme il faut. Il la regarde en coin et comme il lui sourit, elle sourit aussi. Elle avait l'air honnête, il s'approche, frôle sa main. Elle ne dit rien, le métro s'arrête, stop. La muette, la foule monte en voiture. Le monsieur, mine de rien, devient tendre et puis s'aventure, stop. Maillot, Puis enfin, quelle aubaine, elle lui fait, moi je dis sans, comme moi dit-il à la prochaine. Stop, concorde, une fois dans la rue, elle dit sans hésiter, moi je demeure à côté, venez me, venez donc chez moi, mon mari n'est pas là, tra-la-la-la-la. L'ascenseur les enlève, elle se serre dans ses bras, tout de quoi monter dans un rêve. Stop, c'est là, le divot, elle caresse, oh mon amour, mon chéri, et puis juste à l'instant d'ivresse, stop. Le mari, il fait une drôle de tête, mais ce qu'il dit, ah, ça on ne sait pas, car c'est là que la chanson s'arrête. Stop. Voilà.
Lucette Desvignes, évidemment, il y a la campagne de mai-juin 40, et finalement, votre famille va décider de partir, donc de gonfler, l'exode sur les routes de France. Donc vous partez en direction du sud, et... Il y a bien sûr beaucoup de peur. Il y a la peur des bombardements sur le Creusot qui fabrique des tanks et même, dit-on, des sous-marins. Il y a la maison de campagne au bord du lac des Sétons, tout de même.
Non, cette maison de campagne-là, elle est à une dizaine de kilomètres de Châlons. La maison de campagne aux Sétons, dont je parle aussi avec beaucoup de tendresse, ça, c'était la maison de campagne de ma grand-mère. Et c'est lorsque j'y passais des vacances, avant la guerre, que j'ai glané des quantités de souvenirs. J'ai engrangé beaucoup de souvenirs. Mais à ce moment-là, il n'était pas question pour nous d'aller aux Sétons. Les Sétons, c'était plus au nord. Il s'agissait de descendre. Donc, nous sommes allés directement...
D'abord saluer les grands-parents à Cluny.
D'abord saluer les grands-parents. C'est la dernière fois que j'ai vu mes grands-parents, puisqu'ils sont morts par la suite, mais pendant l'occupation, nous n'avons pas eu le droit de traverser la ligne de démarcation. Mon père a eu droit à 48 heures. Et il n'y avait plus de train, il n'y avait plus de car. Il est donc allé enterrer ses parents par deux fois, puisqu'ils sont morts à 3 mois d'intervalle, à bicyclette. Et il fallait qu'il aille de Châlons à Massilly, à bicyclette, qu'il assiste à l'enterrement, et puis qu'il revienne à bicyclette. Et nous n'étions pas autorisés. Lui, parce que c'était le fils. Il avait reçu cette permission tout à fait spéciale, avec un Ausweis.
Alors, vous partez en direction du sud, route de Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme, et vous allez avec vos parents, votre frère, vous retrouver dans une ferme, dans des conditions de vie assez spartiates, ouais. 3 semaines dans une ferme à Entraigues.
Oui.
On est dans quel département? Le Vaucluse?
Oh non, pas si au sud que ça. On est à côté de Clermont-Ferrand. Quand il y a Clermont-Ferrand, alors qu'est-ce que c'est comme de... Dans l'Allier. On était peut-être dans l'Allier ou dans le Puy-de-Dôme. Dans l'Allier ou dans le Puy-de-Dôme.
Et alors ces 3 semaines passées à la ferme, c'était...
Ah, et puis, pas passer à la ferme. Passer dans un pays où une fermière avait loué, en somme, à ma mère... à ma sœur et à moi, un lit pour 3 semaines. C'est un lit dont probablement les draps n'avaient pas été changés, d'ailleurs. Tandis que mon père et son fils n'avaient trouvé d'autre refuge qu'une remise. Une remise où il y avait deux matelas, mais enfin indescriptibles. C'était tout ce que le comité d'accueil... Enfin, il n'y avait pas de comité d'accueil, d'ailleurs, mais c'était un petit village en Trègue qui ne pouvait même pas avoir un accès facile à la fontaine publique tellement il y avait ce que ma mère appelait la cloaca maxima tout autour. On posait des briques qui s'enfonçaient. Hein. On faisait un chemin de briques pour pouvoir aller jusqu'à la fontaine, mais on n'arrivait pas à la fontaine sans avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. C'était un pays, je ne sais pas, il m'a laissé des souvenirs abominables.
Alors, 3 semaines passées, puis c'est le retour sur Chalon-sur-Saône.
Oui, parce
alors, à quel moment pouvez-vous retourner sur Chalon-sur-Saône?
Eh bien, à partir du moment où on a eu le droit. Parce que dans l'intervalle, les Allemands s'étaient installés à Paris et donnaient des ordres pour le retour des gens en exode. Parce qu'ils voulaient éviter l'encombrement des routes. Et donc, exactement comme maintenant, on dit, vous savez, de telle heure à telle heure, il serait bon de ne pas partir de Paris à cause des encombrements. Vous savez, on le dit maintenant.
Bien sûr.
Ben, c'était la même chose. Alors, au moment où on a reçu la permission de remonter du Puy-de-Dôme jusqu'en Saône-et-Loire, nous l'avons fait.
Et alors là, on peut dire que vous allez voir votre premier Allemand, votre premier Boche.
Mes premiers Boches, oui.
Impression.
Parce que, horrible, nous étions sur la route. On ne faisait rien de toute la journée, on n'avait rien à faire, on ne pouvait pas faire de cuisine, rien du tout. Alors on se promenait. Et sur la route, on a vu arriver un sidecar, le fameux sidecar, avec un Allemand, enfin deux Allemands, avec le casque déjà, dont nous n'avions pas l'habitude, le casque, les grosses lunettes de motocyclette. C'était vraiment les agents de la mort qui arrivaient. Et on s'était retourné, on les avait vus. Et on s'est tous immobilisés comme ça. On était 5 ou 6. Oui, 5, 6. Et puis ils nous ont dépassés. Et on a eu l'impression que on ressuscitait. Ils étaient passés devant nous. Après, on avait vu cette vision d'horreur et d'épouvante, de ce gris, ce noir. Les voitures étaient noires, enfin, le sidecar était noir. Et dedans, ils étaient avec des imperméables gris foncé. C'était vraiment prémonitoire. On avait l'impression que c'était la mort qui entrait dans notre vie.
Et comme vous l'écrivez à la page 149, oui, l'occupation avait commencé.
Oui, l'occupation avait commencé. On voyait enfin des occupants et on savait qu'ils ne nous libéreraient pas avant que les Anglais, les Russes et peut-être les Américains, autour des forces françaises libres.
Lucette Desvignes, on va marquer une nouvelle pause musicale. Nous allons écouter un titre de 1943. Il s'agit de Danser, interprété par Guy Berry. Et puis on vous retrouve, chère Lucette, dans quelques minutes pour parler de votre autobiographie, Le Miel de l'Aube, disponible aux éditions de l'Armançon, sous-titré Une enfance en Bourgogne pendant l'occupation. Excellente soirée sur Radio Ne, vous écoutez Wagon Livre.
Le soleil dort la fenêtre de notre chambre. Réveillez-vous, mon amour, ouvrons les rideaux. La vie est belle, il ne faut pas la faire attendre. Ah zut, je me suis trompé, il tombe de l'eau. Quittez cette mine boudeuse, pourquoi se faire du souci? Et pour que vous soyez joyeuse, laissez-moi vous dire ceci. danser quand le ciel est bleu, et même s'il pleut, entrer dans la danse, danse, danser comme les gouttes d'eau qui glissent sur les carreaux. Danser depuis le matin dans la salle de bain, prenez la cadence, danse, danser même dans votre lit, danser en chemise de nuit. Mais surtout faites bien attention, car à la mesure, sur, pas besoin de prendre des leçons, c'est très facile. Je vous assure, sur danser le jour et la nuit, quand le soleil luit, quand la lune brille, danser tout ira bien mieux, quand on danse on est joyeux. Les soirs d'été dans le ciel dansent des étoiles, quand vient l'hiver la neige danse un balai blanc. Une araignée en marchant danse sur sa toile, et sur la mer les bateaux dansent sous le vent. Le chat avec les souris danse la nuit là-haut dans le grenier, et la cuisinière dit quelle chance, je fais danser l'ange du panier. Danser quand le ciel est bleu, et même s'il pleut, entrer dans la danse, danse, danser comme les gouttes d'eau qui glissent sur les carreaux. Danser depuis le matin dans la salle de bain, prenez la cadence, danse, danser même dans votre lit, danser en chemise de nuit. Mais surtout faites bien attention, car à la mesure, sur, pas besoin de prendre des leçons, c'est très facile, je vous assure, sur danser le jour et la nuit, quand le soleil brille, quand la lune brille, danser tout ira bien mieux, quand on danse on est joyeux. Danser le jour et la nuit, quand le soleil brille, quand la lune brille, danser tout ira bien mieux, quand on danse on est joyeux.
À l'instant, c'était Danser, un titre interprété par Guy Berry en 1943. On retrouve notre invité ce soir devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale, Lucette Desvignes, pour Le Miel de l'Aube, paru aux éditions de l'Armançon et sous-titré Une enfance en Bourgogne pendant l'occupation.
Vous retrouvez l'école, vous constatez les dégâts qui ont pu être causés par les Allemands pendant les trois semaines passées à Entraigues. Et puis vous voyez arriver les premiers prisonniers français, avec leur gardien allemand, bien évidemment. Alors là aussi, c'est l'humiliation, c'est l'armée française en déroute, c'est la défaite.
C'est la tristesse, c'est la défaite. On voyait ces types qui ne pouvaient pas se laver. Il y avait un robinet pour toute l'école. Ils ne pouvaient pas se laver, ils ne pouvaient pas se changer. Ceux qui étaient malades ne pouvaient pas se soigner. Ils sont restés là 8 ou 10 jours, je crois. Oh oui, bien 8 ou 10 jours. Avant qu'ils ne partent pour l'Allemagne, et quand nous les avons vus partir aussi, c'était un gros crève-cœur, parce qu'on savait qu'ils allaient vers l'inconnu, et vers un inconnu sinistre.
Alors nous nous sommes quittés il y a quelques minutes sur l'évocation des prisonniers. Il y a une solidarité tout de même avec ces prisonniers, quand bien même il faut faire attention à l'égard de l'occupant, puisque bien les sûr. Allemands sont chez vous, oui, à l'école,
oui.
Et... il y a un prisonnier notamment qui a besoin de slip.
Oui, et alors justement, nous étions avec mon frère et puis trois ou quatre gamins du coin chargés de faire les commissions des prisonniers. Ils s'arrangeaient quand même, les Allemands s'arrangeaient pour laisser passer les gamins. Et donc, on leur donnait des commissions à faire. Et moi, j'avais été chargée d'acheter un slip. Mais heureusement, c'est ma sœur qui s'en est occupée, parce que je vois toujours la bonne tête de ce soldat qui se tournait vers ma sœur, de l'autre côté de la fenêtre, en lui disant « Je peux tout de même pas demander à cette gamine de m'acheter un slip. » Et c'est vrai, et il était plein de délicatesse, finalement.
Et puis, il y avait un prisonnier qui avait un ulcère. Alors, votre maman lui servait une petite infusion réconfortante.
Ma mère faisait de la tisane, oui, pour un prisonnier qui avait un ulcère. Et justement, elle était obligée de lui passer la théière par la fenêtre des Water, parce que nous n'avions pas le droit, nous, Français, enfin, nous, chez nous, de passer sur notre terrasse, puisque les prisonniers allaient partout. Ils étaient partout. Ils étaient empilés, je pense qu'ils devaient être empilés dans les classes. Quand les Allemands, après, se sont installés pour 2 ans et demi, ils ont installé des chalets dans toutes ces pièces, dans toutes les salles de classe. Il y avait moyen pour eux de s'installer. Mais là, pour les prisonniers, rien n'était prévu. Donc, on en empilait peut-être une centaine dans une pièce. Alors, comment dormaient-ils? Je ne sais pas. Ça a duré plusieurs jours, là, en tout cas.
Vous parlez, bien sûr, de vos parents, votre mère, votre père. Il faut dire que, donc, la famille possédait une maison de campagne. Donc, vous disiez, Lucette, au sud de Chalon-sur-Saône?
Non, à côté de Mercuret.
À côté de Mercuret.
C'était au nord.
Alors, dans cette maison de campagne, il y a un poste de TSF, mais cette maison de campagne, elle est devenue l'Ortskommandantur. Et votre père, courageusement, a dit, je vais aller rechercher le poste TSF qui se trouve là-bas.
Oui, exactement. Mon père avait dit, il n'y a pas de raison pour qu'on nous occupe la maison de campagne. Je vais continuer à aller m'occuper du jardin, et comme ça, toutes les semaines, je verrai ce qui se passe. Alors, mon père allait donc s'occuper du jardin, et à plusieurs reprises, c'était 2 capitaines, je crois, qui occupaient la maison, ont envoyé leur ordonnance pour bêcher à sa place. Alors, ça, c'était en signe de gentillesse, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient bien logés dans cette maison. Puis s'ils en avaient fait l'Ortskommandantur, c'est justement parce qu'ils avaient trouvé que c'était la maison la plus agréable du village. Mais mon père avait voulu récupérer son poste de TSF, et le pauvre Allemand, c'était vraiment le dernier des derniers. Et c'était même pas un caporal, c'était enfin rien du tout. Qui a remonté le poste de TSF sur son épaule et à bicyclette sur un chemin montant, sablonneux, malaisé, dirait La Fontaine, mais là, tout à fait caillouteux. Naturellement, il est tombé. Il a recassé l'appareil. Et mon père avait dit... j'ai été estomaqué de voir que immédiatement le capitaine lui a dit vous ramènerez ce poste en état la semaine prochaine, alors que ce type s'était coupé les mains, il saignait comme un veau. Mon père disait toujours il saignait comme un veau, puis après il le disait en allemand. Je ne sais pas du tout si en allemand on disait « saigner comme un veau ». En tout cas, mon père traduisait directement « il saignait comme un veau ». Alors, c'était drôle de voir cette espèce de contact qu'il avait toutes les semaines avec sa maison de campagne. Alors, la semaine d'après, il a récupéré son poste, mais comme le poste avait été... réparé en ville, donc à Chalon, le capitaine avait fait livrer le poste directement à Chalon, de chez le marchand jusque chez nous, sans avoir à passer par l'intermédiaire de la maison de campagne, où il aurait pu connaître une nouvelle chute.
Nous retrouverons Lucette Desvignes mercredi prochain à partir de 21h pour la deuxième et dernière partie de cet entretien consacré à son autobiographie Le miel de l'aube, sous-titré Une enfance en Bourgogne sous l'occupation, ouvrage disponible aux éditions de l'Armançon, ouvrage que vous trouvez également en format de poche aux éditions de Bourré. En tout cas, deuxième et dernière partie de l'entretien avec Lucette Desvignes pour évoquer le miel de ses souvenirs, le miel de l'aube de sa vie. C'est donc le 5 juin prochain à partir de 21h. Avant de nous séparer, je voudrais vous rappeler le festival Les Ruraleuses 2013 qui va se tenir le week-end du 31 mai jusqu'au samedi 1er juin. C'est un festival de poésie et de chansons qui en est à sa troisième édition. Alors, le festival commence le vendredi 31 mai à partir de 20h avec la projection du film d'Agnès Varda, Les Glaneurs et la Glaneuse. L'entrée et la participation à cette soirée sont libres. En revanche, à partir du samedi 1er juin, à partir de 18h, récital de Nathalie Solens, auteur, compositeur et interprète. Là, le prix des places est payant. Le samedi 1er juin, toujours au château de Julie, dans le cadre du festival Les Ruraleuses, le récital de Francesca Solville. Francesca Solville qui a sorti son premier disque en 1959 et qui est effectivement profondément attachée à la chanson poétique. Elle chante les plus grands poètes, Louis Aragon, Pierre Macorlan, Pierre Segers, Maurice Fombeur, Paul Fort, Apollinaire, Baudelaire, Bernard Dimet. Et puis, si vous voulez entendre le régional de l'étape René Daudan interpréter ses dernières chansons, eh bien vous notez le rendez-vous dans le cadre du festival Les Ruraleuses, c'est le dimanche 2 juin à partir de 16h. Pour tout renseignement et réservation, un seul numéro de téléphone et je vous le donne, il s'agit du 03 86 75 14 66. 03 86 75 14 66. Excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de Radion. Merci de votre fidélité. Rendez-vous donc mercredi prochain avec Lucette Devine pour la deuxième partie de l'entretien autour du Miel de l'Aube, son autobiographie consacrée à son enfance en Bourgogne sous l'occupation. Au revoir à toutes et à tous et merci.